Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là sur votre radio, La Nouvelle Génération. Nous sommes au lundi 6 mai 2024. Il est 11h, passé de quelques instants sur votre radio, La Nouvelle Génération. Et merci de nous choisir pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde. Géraud Dakouta sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lousseau. Comme toujours, vous le savez très bien, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapparan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, bien sûr, mais bien avant, nos confrères et aussi des invités. J'ai ma collègue Sylvie Ouedraogo avec moi dans ce studio. Sylvie, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Je vais très bien et j'espère de même pour vous.
Voilà, ça va aussi par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes dans ce studio, compte tenu alors d'un trophée que je suis en train de voir sur ma table. Alors, je ne sais pas, il s'agit concrètement de quoi ce trophée?
Alors, il s'agit du trophée pour avoir participé concours national médias et droits humains organisé par l'OTM, notre organe régulateur, bien sûr.
Et vous avez été sacré même d'ailleurs, premier prix hein, pour ce concours. Et je pense quand même que c'est tout un honneur pour Radio-Canal FM. J'écoutais cela ce matin alors au niveau de la rédaction, dans le journal, bien sûr. Et nous tenons à vous dire félicitations alors pour ce travail fait.
Merci Pascal.
Alors concrètement, votre travail a porté sur quoi?
Alors, il s'agit d'une production de 3 minutes, une production audio qui a porté sur le droit des femmes à la terre, l'accès des femmes à la terre. Nous savons que les lois au Togo, les lois sont votées en faveur des femmes, mais malheureusement, dans les juridictions, la femme ne va pas, voilà, disons, au front des affaires. Donc, elle abandonne, disons, la procédure juridique. Alors, donc, l'appel est lancé aux femmes à revendiquer davantage leurs droits, surtout dans les juridictions, puisque les lois sont votées en leur faveur, mais c'est à elles de s'approprier de cela.
Et est-ce que ça veut dire qu'on peut considérer que les femmes constituent elles-mêmes aussi des blocages pour accéder même d'ailleurs à ces droits?
Malheureusement, c'est le constat que j'ai fait. La femme constitue une barrière pour elle-même dans ce cas précis.
Merci beaucoup Sylvie Ouedraogo d'être passée dans cette émission. Une fois encore, félicitations. Et c'est tout un honneur.
Merci Pascal, c'est tout un honneur. Alors je dédie ce travail d'abord au personnel de la radio, notamment la rédaction, sans oublier ma rédactrice en chef, bien sûr, Patricia Disseco.
Et je pense qu'il le faut, surtout que je sais le travail de fond qu'elle a fait, comment l'appelle-t-on, derrière ce trophée que tu viens de recevoir. Félicitations à nous tous hein, pour ce travail fait. Félicitations une fois encore.
Merci beaucoup Pascal Lousseau.
Voilà, merci. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et félicitations à Sylvie pour le travail abattu.
Nous sommes honorés.
Bien entendu, à chaque fois qu'un journaliste est honoré, reconnu de par son travail, c'est un honneur pour toute la corporation, au-delà des petites compétitions qu'il peut y avoir entre nous. Quand l'un d'entre nous vient à être honoré à une initiative pareille, c'est un honneur pour la corporation. Ça prouve qu'il y a de la valeur à revendre dans la presse togolaise. Et félicitations encore une fois à Sylvie, à l'équipe de Canal FM et surtout à la grande sœur Patricia.
D'accord, merci beaucoup. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux éditeurs, auditeurs de Canal FM.
Mais ça fait pratiquement 2 jours, comme on a l'habitude de le dire, ça nous a manqué.
J'étais parti chez moi d'Apaon.
Tout à fait.
Je t'avais informé. Et puis, vous savez, l'actualité obligeait de pouvoir faire un tour chez soi. C'était vraiment un plaisir. Malheureusement pour toi et les autres, je devais ramener les pintades. Mais arrivé au niveau de, je ne sais pas, Mango, les pintades se sont envolées.
Ah, mais c'est quel type de pintade?
Bon, ça ne serait que partie
remise. Et que même le propriétaire ne l'a pas maîtrisé.
Donc, c'est une partie remise.
Tout à fait.
Est-ce que je vais retourner encore d'après? Je vais vous ramener les pétales. Ne vous en faites pas.
D'accord.
Salut à ma soeur pour le prix. Et félicitations à Canal FM et au personnel. Et c'est toujours, ça fait plaisir que nos soeurs remportent vraiment des prix, ce qui veut dire que quand on parle de l'émancipation des femmes, ce n'est pas un leurre, mais c'est une réalité.
Tout à fait.
Donc, félicitations pour le prix qu'elle vient de remporter.
Merci beaucoup. Nous avons un invité aujourd'hui, puisque nous savons comment l'actualité se déroule alors dans notre pays. Et nous savons que déjà depuis le samedi dernier, nous avons connaissance même d'ailleurs de des résultats provisoires de la des élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Et pour l'occasion, nous avons M. Malik Kankanataba avec nous. M. Malik, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir. Je voudrais saluer les deux confrères qui sont sur le plateau et bien sûr saisir cette opportunité pour féliciter votre consoeur pour son prix et féliciter l'ensemble du personnel de la radio et encourager à la sensibilisation sur des thématiques qui, comme elle-même l'a dit, concerne en fait toutes les femmes, notamment celles qui sont dans le monde rural.
Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci de répondre aussi à nos questions. Et je le disais tout de suite que nous avons connaissance alors des résultats provisoires des élections législatives et régionales du 29 avril dernier. Et déjà avec ce résultat, on comprend tout simplement que Unis s'en sort avec 108 sièges. Et il y a Adi qui est sorti aussi avec 2 sièges, FDR 1 siège, ANC 1 siège, DMP 1 siège. Alors, Monsieur Malik Nassaba, déjà 108 sièges pour le parti au pouvoir. Comment, déjà au lendemain même d'ailleurs de ces résultats, vous vous sentez, ou quelle est votre impression déjà au lendemain de ces résultats?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, le parti Unir, sans avoir fait de réaction officielle, a considéré qu'il était important de se confier à Dieu dans toutes les composantes religieuses de notre pays pour pouvoir justement exprimer la gratitude par rapport au déroulement de ce scrutin et aussi les remerciements par rapport au vote qui a été vu à travers les résultats provisoires. Donc, je pense que cela traduit la sobriété avec laquelle nous accueillons cette marque de confiance des populations et aussi le sens des responsabilités. Parce que, en réalité, il faut entendre les messages qui sont donnés et ces messages-là, c'est des messages d'encouragement à continuer l'action qui a été entreprise sous le leadership du chef de l'État et de mettre en œuvre la vision qui est la sienne, puisque c'est sur cela que les propositions ont été faites et c'est sur cette base que les populations ont adhéré à ce que nos listes ont suggéré dans les différentes localités. Donc vraiment, sobriété, responsabilité.
Et sobriété, responsabilité. Donc on estime que vous avez taillé même la grande part du lion, comme on a l'habitude de le dire dans l'expression. Attends, comment ça s'est passé?
Ceux qui disent cela, ils reflètent quelque chose de technique, c'est-à-dire que quand on est à 108 sur 113, effectivement, c'est la part la plus importante. Cela s'est passé en réalité de manière transparente et devant tout le monde. Cela s'est passé d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les Togolais croient au leadership du chef de l'État, en la vision qu'il propose et au projet qu'il propose, et au fait que ce projet est un projet qui correspond aux volontés des populations, notamment en matière de paix et de sécurité, en matière d'inclusion et en matière de développement économique. On ne va pas tout détailler ici. Le deuxième élément pourrait être la présence du parti sur le terrain. Et parfois, quand nous regardons en réalité, les uns et les autres, nous sommes tous des acteurs politiques, nous sommes mobilisés sur le terrain, j'allais dire depuis bien 6 mois, c'est le minimum, 6 mois avant que la campagne électorale n'arrive. Parce que nous sommes engagés au niveau du parti à aller régulièrement sur le terrain, à aller régulièrement échanger avec les populations et à aller régulièrement saisir la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Et dans toutes les localités, on avait cette dynamique-là qui était déjà installée et qui s'est accélérée, comme tout le monde l'a vu, lors de la campagne, qui a permis de voir le travail. Le travail qui avait été fait est un travail qui a été continué et les populations n'ont pas été surprises de voir venir les cadres, les agents, les futurs élus, les candidats du Parti Uni vers eux, parce que c'est des gens qui venaient déjà et qui étaient déjà au quotidien avec eux. Je pense que peut-être un autre facteur qu'on pourrait aimer, c'est le fait d'avoir vu la jeunesse, les femmes, les forces vives de nos se mobiliser autour de ces listes-là, qui traduisaient un certain renouvellement, puisque la composition des listes de notre parti sont des listes relativement diverses. Hein. Quand on les regarde, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, il y avait des nouveaux venus, il y avait des personnes de l'administration, il y avait des personnes du secteur privé. Et donc, il faut saluer, au final, la capacité de notre leader à structurer notre stratégie pour aller vers cette élection. Et je pense que le message qu'il a passé lors du congrès, qui tenait en 2 mots, c'est-à-dire empathie et humilité, a été entendu par les différents militants. Et les différents militants sont allés vers les populations avec ces 2 mots-là, empathie et humilité. Et manifestement, cela a été payant.
Vous avez qualifié ces élections de transparentes tout de suite, mais ce n'est pas le cas chez vos adversaires, et notamment chez la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. Déjà, la semaine dernière, quand les tendances tombaient, automatiquement, la dynamique a organisé une conférence de presse pour dénoncer un certain nombre d'irrégularités, hein, qui ont entaché même d'ailleurs ces élections. Je vais vous proposer alors d'écouter Madame Brigitte Kafuyadia Magbo-Johnson sur ce qu'elle disait déjà lors de cette conférence de presse.
Nous avons remarqué qu'on a abusé des votes par dérogation qui sont enfermés dans des conditions très précises. À part les pratiques de vote par dérogation, il y a eu beaucoup de bourrages d'urnes partout. Et nous-mêmes, dans Golfe, et plus précisément aux environs du centre Aflaou-Gakli, eh bien, nous avons traqué cette manœuvre de bourrage. On voulait introduire une urne bourrée dans ce qui avait déjà été voté. Et nous avons posté des gens qui ont suivi et qui ont finalement empêché que la manœuvre se fasse. Ils ont suivi jusque très tard dans la nuit. En dehors des bourrages d'urnes, les PV ont été remplis d'avance et malheureusement, on a réussi à faire en sorte que même certains de nos délégués signent. L'achat de conscience, la corruption, on nous a cité, par exemple, dans le Tchaoudjo, le nom d'une ministre, Madame Tchakondo Zouvera, qu'on a vu passer dans les bureaux de vote, distribuer de l'argent aux membres de bureaux de vote, naturellement, contre une contrepartie.
Vous venez là de suivre Madame Kafoui Brigitte Adama Bojosson, la coordinatrice de la DMP. Monsieur Malik Kakanataba, réaction?
Je pense que nous sommes tous témoins du déroulement de cette élection-là. Et nous sommes surtout témoins de l'écart qui a été constaté en termes de voix dans toutes les circonscriptions électorales, y compris dans celles qui sont habituellement des circonscriptions dans lesquelles les résultats sont en faveur d'un autre bord politique. Donc nous constatons en réalité une avancée considérable du Parti Unir qui est incontestable. Des allégations qui sont portées, je pense qu'elles doivent faire l'objet de documentation. qu'on doit apporter un certain nombre d'éléments complémentaires, notamment si on en vient à citer des noms, ce que moi je trouve un peu c'est trop s'avancer, mais à partir du moment où on a des éléments comme cela a été mentionné, je pense qu'il faut constituer les dossiers et se référer aux juridictions compétentes pour qu'elles puissent connaître de ce contentieux-là. Heureusement, la loi a tout prévu, y compris la possibilité de saisir ces juridictions-là. Et donc, nous invitons les uns et les autres à, dans l'esprit de la participation libre et transparente à ces élections-là, à continuer dans cette voie-là et à s'adresser à ces juridictions.
Mmh. Jacques, vous avez une question ?
Je voulais d'abord revenir un peu sur la forme et le fond de ces élections législatives. J'ai eu la chance un peu de faire le tour jusqu'au nord du pays. Parlant de la forme, il faut reconnaître que quand même les partis politiques ont eu quand même cette chance de sillonner toute l'étendue du territoire national. Ce n'était pas d'abord un pari gagné, surtout vers chez nous. À l'intérieur du pays, on avait peur entre-temps que peut-être le gouvernement pouvait empêcher les partis politiques de pouvoir sillonner cette région sur ce que vous connaissez par rapport à ces attaques terroristes. Mais il faut reconnaître que j'ai été un témoin vivant de ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Les candidats ont eu l'amabilité, la chance de circuler un peu l'ensemble du territoire pour battre la campagne. Autre forme, c'est que ce que j'ai constaté particulièrement, c'est que les partis politiques n'ont pas tellement occupé les médias à l'intérieur du pays. Le constat, les médias seulement, c'était à Lomé ici, que les partis politiques, tout parti politique confondu, même le parti au pouvoir également, n'a pas tellement occupé les médias de l'intérieur du pays. Et ça fait que nos confrères se plaignaient un peu du fait que les gens ne sont pas venus expliquer ce que c'est que ces élections, parce que vous savez que c'était un peu compliqué. Donc voilà un peu la forme de la campagne. Il faut reconnaître que les uns et les autres ont eu quand même cette chance d'aller battre la campagne sans problème. Parlons maintenant du fond, c'est-à-dire le jour du vote. Personnellement, ce que j'ai constaté sur ces élections, c'est que il faut reconnaître que à un moment donné, il y a certains partis politiques qui, au niveau, par exemple, quand vous prenez le spécimen, par exemple, pour voter, les gens s'attendaient à voir les photos des candidats au lieu des logos. Parce que quand vous prenez certains partis politiques, leur naissance, peut-être que c'est un an, d'autres 6 mois, ça fait que les gens n'arrivaient pas à déterminer les logos sur les bulletins de vote. C'était un peu compliqué. Parce que déjà, quand vous prenez, par exemple, le bulletin de vote, ça dépasse déjà une pièce de pagne. C'était un peu difficile pour les gens. Et personnellement, j'ai assisté à un bureau de vote où j'ai vu un monsieur, quand il est venu, il a donné le nom d'un parti politique. Il dit non, qu'il ne voit pas la photo de ce monsieur, qu'il est venu pour voter. Mais je ne pouvais pas m'approcher pour lui dire non, au fait, si je le faisais, vous allez voir que ma photo allait circuler sur les réseaux. C'est comme si je suis venu donner des instructions à quelqu'un de voter pour quelqu'un. Mais j'étais là impuissant, je ne pouvais rien faire. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il faut reconnaître que, un, au niveau de certains partis politiques, leur durée de vie sur le terrain n'a pas permis effectivement à nos compatriotes de pouvoir déterminer les logos qui figuraient sur les bulletins de vote, parce que les gens s'y attendaient à voir les photos des gens. S'il y avait par exemple les photos, cela pourra aider effectivement nos compatriotes à faire le distinguo entre les logos et les photos des gens. Cela pourra permettre effectivement aux gens d'aller voter. L'autre aspect, il faut reconnaître que c'est vrai que quand vous prenez par exemple ceux qui sont sortis pour voter, par exemple à Lomé, le bureau de vote dans lequel j'ai voté, j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement
d'affluence
au niveau de ces bureaux, mais la CENI a expliqué le fait que ils ont multiplié les bureaux de vote.
Il semble que cette année, il y a plus de 5 millions voilà, de bureaux de vote qui ont été créés.
Justement, ce qui a justifié que les gens ne sont pas allés voter. Mais autre aspect, il faut reconnaître que le problème fondamental, moi, ce que personnellement j'ai remarqué, c'est que il y a certains partis politiques, il faut reconnaître que c'est la durée de vie sur le terrain qui a fait que les gens avaient tellement de problèmes à pouvoir effectivement voter. Comme on l'a dit, si les partis politiques d'opposition étaient allés en bloc, cela pourrait permettre effectivement à nos compatriotes de faire un choix judicieux. Parce que le fait qu'ils sont, il y a tellement de partis politiques, devant un seul parti qui est uni, les gens savent que quand on parle d'unir, les gens se disent non, que c'est un pigeon. Donc là, vous voyez que les gens en allant savent qu'ils pourront voter par exemple le pigeon. Mais quand on prend d'autres partis, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, vous prenez par le bulletin de vote, c'est comme une feuille de tôle. C'est un peu difficile de pouvoir déterminer les logos et voter effectivement pour les candidats. Ma question à M. Malick Nachaba, j'ai écouté l'une des responsables du Parti Unir sur un média international qui disait que le vote de ce législatif et régional, que c'est comme un vote sanction contre les partis de l'opposition qui n'étaient pas effectivement cohérents dans leur démarche et leur campagne. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est un vote sanction du Parti Unir, les militants du Parti Unir contre l'opposition par rapport effectivement à cette constitution où le chef de l'État n'a pas encore promulgué la constitution. Selon vous, est-ce que c'est vraiment un vote sanction contre l'opposition?
D'accord, Monsieur Nataba.
Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais peut-être revenir sur les points. C'est vrai que par rapport au problème du bulletin de vote, moi j'ai particulièrement salué effectivement le fait que les agents qui étaient dans les bureaux de vote avaient pris la peine effectivement d'organiser les choses en pliant les bulletins. Mais encore faut-il reconnaître le parti pour lequel on veut voter pour que effectivement les choses se passent bien. Je pense que cela est aversé en quelque sorte aux leçons apprises pour que nous puissions voir comment cela peut être amélioré dans l'avenir. Maintenant, pour revenir au terme utilisé, je pense que dans toute élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des messages que la population envoie à nous autres acteurs politiques, puisque nous sommes allés vers elle et en retour, elle s'est exprimée à travers les bureaux de vote. Et je pense que c'est à chaque acteur politique d'entendre le message qui est passé. Le qualifier à notre niveau, ce n'est pas l'objet de notre analyse. Je pense qu'il y a des messages qui sont passés. Il y a des messages de peut-être il faut mieux faire, peut-être il faut proposer autre chose, peut-être il faut aller dans telle direction, etc., etc. Et donc, il faut que, à notre niveau, en tant qu'acteur politique, nous ayons l'humilité, même quand nous voyons que nous avons une certaine confiance de la population, l'humilité d'entendre ce message-là. Et c'est ce que Parti Unir, nous faisons. Et comme je l'ai dit, sous, encore une fois, les instructions qui ont été données, c'est l'humilité et l'empathie. Toujours entendre ce qui est dit et entendre aussi ce qui est dit par ceux qui n'ont pas été favorables à ce que nous avons proposé. Parce qu'ils sont aussi là et en tant que responsables politiques, les députés seront les députés de tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, le message doit être entendu de manière globale pour pouvoir proposer quelque chose pour le développement de notre pays.
Mais justement, hein, par rapport à cette question de Jacques, comment vous expliquez le fait que, déjà pour ces élections, l'opposition traditionnelle est sortie avec 5 sièges?
J'ai envie de dire que c'est comme au sport. C'est-à-dire que parfois, on a un match et on trouve qu'on a gagné le match peut-être par un score important et on considère que l'équipe adverse est jouée. Mais si l'équipe adverse joue, c'est souvent parce qu'il y a une équipe qui, elle, a joué son jeu et a réussi à cadenasser ou à organiser les choses d'une certaine façon. Passer la boutade sportive, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des questions d'occupation de terrain, des questions de présence, des questions de messages qui sont passés. Et je pense que peut-être, mais c'est mon analyse parce que évidemment des autres acteurs politiques ont la leur, mais je pense que à partir du moment où peut-être que le débat était concentré sur le sujet du test constitutionnel, peut-être que les acteurs n'ont pas su apporter ce sujet-là au niveau des populations pour que cela les motive suffisamment pour pouvoir justement aller dans leur direction. En revanche, il avait peut-être été envisagé qu'au Parti Unir, cet élément-là ne serait peut-être pas abordé, mais effectivement, les candidats, chaque fois où la question a été posée, ont explicité, on fait de la pédagogie autour du projet. On fait de la pédagogie autour de qu'est-ce que le projet va apporter. Et donc, finalement, ça a été une opportunité pour expliquer en fait quelle était la vision derrière cette réforme. Et manifestement, encore une fois, c'est le lieu de remercier les populations togolaises pour la maturité avec laquelle elles ont adhéré à ce projet qui était proposé.
Alors, vous parlez de messages. C'est vrai que quand vous écoutez les Togolais, hein, pour la majorité hein, de temps, c'est que on vous dit tout simplement que non, la vie devient de plus en plus difficile. Les choses sont dures dans le pays. On a un certain nombre alors de messages et aussi un certain nombre alors de regrets par rapport à la situation même d'ailleurs du pays. Mais au même moment, ce sont ces Togolais qui vous offrent pratiquement 108 sièges. Est-ce que ce n'est pas paradoxal?
Je pense qu'il faut voir la dynamique qu'on avait constatée quand on avait ouvert la possibilité de faire le recensement. Nous, on l'avait interprété comme le fait qu'il y a une adhésion à cette promesse sociale et aux actions sociales qui sont menées par le chef de l'État. Parce qu'en réalité, dans une période très difficile, pour tout le monde, hein, pas que pour les Togolais, la vie chère, c'est un peu partout dans le monde, ce n'est pas une raison, mais dans cette période-là, des actions ont été prises, des actions vigoureuses ont été prises pour renforcer la résilience des populations. Et les populations ont vu l'effet de ces actions-là. Un peu partout sur le territoire, dans la région des savanes, il y a toujours des enjeux. Mais le PURS, le projet COSO, ce sont des projets qui apportent des réponses aux problématiques, qui sont des problématiques qui parfois renforcent en quelque sorte la vulnérabilité des populations. Et dans d'autres régions, et différents programmes, différentes actions, évidemment, il y a toujours une pression sociale, une pression des attentes des populations qui est de plus en plus importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être dans une dynamique de triomphalisme ou quoi que ce soit. Il y a des challenges, il y a des défis et il faut s'y atteler dès maintenant. Dès le moment où le message est passé, il faut prendre ce message-là et commencer à travailler. Ne jamais s'arrêter de travailler, de proposer quelque chose. Et c'est dans cette dynamique que le parti unirait, toujours proposer, toujours travailler, ne jamais arrêter de travailler, de proposer quelque chose pour le mieux-être des Togolais.
Proposer, est-ce que les résultats sont dans l'attente même de la population aujourd'hui?
Nous constatons qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées sur les différentes données, mais l'objet n'est pas de détailler les choses. Mais il y a eu des avancées, que ce soit en matière de finances inclusives, que ce soit en matière de filets sociaux, quand il y a eu des difficultés, que ce soit en matière d'accès à l'électricité avec le programme Tinga, par exemple, qui réduit le frais de raccordement, que ce soit en matière d'infrastructures en général, qui vise à mailler mieux le pays en termes d'infrastructures, que ce soit en termes de pistes rurales dans différentes localités qui, en saison des pluies, étaient isolées de notre pays, mais qui aujourd'hui sont connectées à notre pays. Alors, dans le domaine agricole, où avec la subvention des engrais, au lieu de 35 000, on paye 18 000, où les engrais sont disponibles pour plusieurs campagnes agricoles, où l'agence de transformation agricole aide les agriculteurs, oui, il y a des avancées qui sont là, qui sont constatées. Et je pense que ce serait difficile de ne pas constater l'effet de ces actions-là dans la réponse qui a été donnée à travers l'expression des urnes.
D'accord. Didier Assouba?
Non, pas de questions.
Vous n'avez pas de questions? D'accord. Alors, aujourd'hui, hein, c'est quoi les défis hein, devant, par rapport même d'ailleurs à, après avoir eu même cette large victoire, allons-nous dire, parce que déjà 108 sièges sur 113, je pense quand même que c'est tellement énorme. C'est quoi les défis alors du parti au pouvoir?
Les défis, j'en ai parlé tout à l'heure, la demande sociale, vous en avez parlé. Il y a toujours une expression des attentes de plus en plus urgente, de plus en plus prégnante des populations et il faut y répondre. Et comme nous l'avons dit dans la période de campagne, les projets comme l'identification biométrique, les projets comme le registre social des personnes et des ménages, qui sont une réalité. Le projet d'identification biométrique a été testé au niveau du campus, des étudiants, pour pouvoir demain quand on doit faire des appuis sociaux, qu'on sache exactement ce qu'on doit donner à qui, en fonction de son revenu. Donc, il faut poursuivre, il faut amplifier les actions dans le domaine social, dans le domaine des cantines scolaires, dans le domaine des autres filets sociaux, etc. Et il y a évidemment des défis en matière d'infrastructures, en matière de pisturage, j'en ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir continuer à renforcer le réseau qui a été mis en place. On a vu que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé la construction des ponts, parce que ce qu'on ne sait pas en général, enfin ceux qui connaissent les régions qui sont concernées, le problème c'est souvent les ouvrages de franchissement, c'est-à-dire les ponts, les petits ponts, les grands ponts, etc., qui souvent, en période de saison pluvieuse, comme l'eau prend de la place, il n'y a pas de moyen de franchir. Ce que la population demande souvent, c'est il faut qu'il y ait au moins un pont, comme ça on peut continuer à circuler. Et les défis en matière de santé, avec l'assurance maladie universelle qui se met en place, et donc l'assurance maladie universelle, c'est une partie de l'accès universel aux soins. C'est-à-dire que améliorer aussi ce qui se fait en matière de soins de la santé, en matière de centre de santé. Et ne serait-ce qu'on voit la préoccupation du chef de l'État pour ce domaine-là, et je pense qu'il l'a exprimé encore hier en visitant le centre de santé de Kounyaou quand il est allé à l'office religieux hier. C'est quelque chose qui a connu des avancées, peut-être que de Lomé on le voit pas, mais dans la région des savanes, avec le projet Sécu qui a été mis en place, un certain nombre de centres de santé ont été rénovés. En tout cas, moi, je pense que dans certaines préfectures, les CMS de chaque canton ont connu des rénovations dans la période qui a précédé. Donc, c'est déjà fait. Donc, maintenant, il faut continuer et amplifier cela dans les autres régions.
Jacques ?
Oui, je crois que aujourd'hui le problème fondamental de nos compatriotes, Monsieur Malik, c'est l'eau, l'accès à l'eau, à l'électricité. Je crois que pour ceux qui ont visité tout récemment le Nord, ou bien ceux qui y vont, vous le diront, quand vous prenez par exemple la voie Lomé-Dapaon, il faut être courageux. C'est pas qu'est-ce que le gouvernement va faire pour soulager ces populations par rapport à l'eau, l'accès à l'électricité, parce que les Togolais sont souvent étonnés que, avec tout ce qui se passe, que UNIR puisse avoir encore 108 députés sur 5, avec ces
613.
Voilà. Qu'est-ce que UNIR pense faire avec cette victoire pour que 6 ans à venir, par rapport au moment du bilan, est-ce que les Togolais auront effectivement accès à l'eau? Est-ce que les Togolais auront accès à l'électricité? Aujourd'hui, quand vous allez dans les centres de santé, vous avez parlé tout à l'heure de l'assurance maladie. Il faut reconnaître également que pour le moment, c'est la croix et la bannière pour les compatriotes. Donc, il faudrait aujourd'hui que, à la fin de ces 6 mois-là, qu'on ne puisse plus parler encore...
De ces six ans,
que le Togolais n'a pas l'eau, le Togolais n'a pas accès à l'électricité, et que, parlant également des routes et autres, que le Togolais puisse dire enfin, conjuguer effectivement tous ces efforts-là au passé, toutes ces souffrances-là au passé. J'ose croire que avec cette victoire, UNIR sera capable de réaliser effectivement le rêve des Togolais sur l'accès à l'eau, à l'électricité et également à la santé. J'ose croire.
Oui,
vous allez relever ce défi.
On ne peut que dire amen à ce qu'il dit. Je veux dire, évidemment, sans faux fuyant, on ne peut que dire amen. Mais ce qui est... je ne remets pas en cause l'analyse qui est faite, mais très, très, très sincèrement, l'accès à l'eau... nombre de nos compatriotes ont eu accès à l'eau dans la période qui a précédé. On est passé de près de 40% à plus de 60%. Peut-être que individuellement on vit des situations, mais c'est la réalité qui est là. C'est la réalité de ce qui est fait pour qu'on puisse avoir accès à l'eau. L'accès à l'électricité, il y a plusieurs sujets. L'accès à l'électricité, c'est le sujet de la production de cette électricité. Il y a le sujet de l'accès au réseau électrique. Il y a le sujet de raccordement à l'électricité. Et comme on l'a vu, et je prends l'exemple des savanes, quand on a lancé le projet Tinga a permis à des personnes qui n'avaient pas la possibilité, qui étaient en ville, hein, qui avaient l'électricité qui passait à côté de chez eux. Donc, c'est différent de la situation des populations rurales. Mais qui n'avaient pas les moyens de payer pour le raccordement, de pouvoir le faire parce que le coût a été ramené à 1 000 francs CFA. Le reste étant étalé sur la facture, sur la période. Donc, ça a permis à plus de 100 000 personnes d'accéder à l'électricité. Donc, je pense qu'il y a des actions qui sont menées. Bien sûr, il reste des défis, comme il a dit, et évidemment que c'est dans ce qui est prévu, il faut continuer à progresser sur ces indicateurs. Il faut continuer à progresser, il faut que nos compatriotes continuent à avoir accès à l'électricité. C'est pour ça que le fonding a été mis en place, par exemple. C'est pour ça que des projets de centrales sont multipliés sur tout le long du territoire. Dans la zone de Dapaan, il y a eu un test qui a été pris pour finaliser l'expropriation pour pouvoir mettre en place une centrale dans la zone de Dapaan. Donc, c'est des projets qui existent et qui renforceront la production électrique. L'accès à l'eau reste un sujet majeur, un sujet de préoccupation majeure pour lequel, j'ai parlé tout à l'heure du projet PURS, il n'y a aucune localité dans laquelle il n'y a pas de projet de faire des forages, il n'y a pas de projet de faire avancer ce sujet-là. Et donc, oui, naturellement, ça reste un défi qui est pris en compte par le Parti Unir, sur lequel le Parti Unir va se mobiliser, et comme il a déjà fait, et évidemment pour pouvoir satisfaire aux besoins des populations. Maintenant, pour revenir à la santé, je pense que parler de croix et de bannière, c'est un peu difficile, effectivement. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de situations qui existent. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de situations qui existent. Mais là aussi, si je prends encore une fois le projet Sécu dans la région des Savanes, la réhabilitation des CMS, c'est une réalité. J'invite tous les médias éventuellement à faire une visite dans ces régions-là. Et quand il y a des problématiques de santé, ce que les gens demandent, c'est avoir des centres de santé qui soient opérationnels, équipés, avec des personnes qui sont dévouées et qui fassent le travail. C'est vrai que parfois, on n'a pas toujours tous ces éléments-là, et qu'il y a peut-être des sujets qui nous-mêmes nous concernent en termes de sérieux au travail, en termes de mobilisation collective, pour pouvoir justement faire en sorte que chacun, quand il vient dans ces endroits, il soit heureux déjà de savoir qu'il est dans un service public. Il y a toute une philosophie en termes de vocation, en termes de pratique de ces services publics sur lesquels nous devons avoir une action collective. Les citoyens, les citoyens usagers, et je me rappelle que quelqu'un disait qu'il faudrait qu'on ait non plus des usagers, mais des partenaires. C'est-à-dire que l'élaboration et la construction d'un service public qui marche, ça passe aussi par des usagers qui sont eux-mêmes engagés dans une démarche positive par rapport à ces services publics-là. Et donc, nous sommes dans cette dynamique et les actions vont continuer dans ce sens.
Oui, monsieur Natabas, c'est vrai que quand on parle de l'aspiration du Togolais, il y a aussi l'alternance qui est souvent citée. À quand cette alternance?
Alors, l'alternance, elle est entre les mains de ceux qui votent. Si c'est de l'alternance politique que vous parlez.
Tout à fait.
Nous sommes dans une... on connaît les formes d'accession au pouvoir politique dans notre pays. Et je crois que c'est le vote. Si nous sommes tous d'accord, à partir de ce moment-là, les élections sont organisées, la compétition, il faut la rendre libre, transparente et démocratique, et la plus ouverte possible. Alors, quand il y a parfois il y a eu les résultats provisoires et on trouvait que le parti Unir avait un score très intéressant, ce n'est pas, je veux dire, c'est une logique par rapport aux actions qui ont été menées. C'est un résultat qui est le fruit d'un travail qui a été accompli. À partir de là, nous ne pouvons que remercier les électeurs pour la confiance qu'ils nous ont accordée.
Alors, dans la nouvelle législature, il n'y aura plus l'UFC, le NET, le PDP et également Bâtir. D'aucuns estiment que, j'ai suivi quand même des commentaires sur des réseaux sociaux et tout, d'aucuns estiment que vous avez fini avec ces partis politiques et maintenant vous voulez, vous avez créé une autre position à l'Assemblée nationale. Comment vous, qu'est-ce que vous répondez?
C'est les électeurs qui ont décidé. C'est les électeurs qui ont décidé. Et nous sommes tous allés à la compétition et ceux qui sont témoins, nous avons eu des listes de ces mouvements auxquels vous faites référence dans les circonscriptions comme toutes les autres listes. Donc les électeurs ont décidé, nous ne pouvons que respecter le choix des électeurs.
Mais est-ce que vous comprenez quand même le fait que pratiquement ces partis politiques n'ont plus alors même un seul siège à l'Assemblée nationale?
Moi, je le constate. Le comprendre, je ne sais pas comment je dois le comprendre. Moi, je constate cela par rapport aux résultats provisoires qui ont été donnés. Et c'est la décision des électeurs, encore une fois. Et donc, si, à un moment donné, les électeurs ont considéré qu'ils voulaient faire confiance à un autre parti, qui parfois est le parti uni, parfois est un autre parti, je pense que nous, en tout cas, nous sommes satisfaits du nombre d'élus que nous avons pu avoir selon les résultats provisoires.
Dizzy?
Je salue Monsieur le ministre pour ses interventions.
Je vous salue aussi.
C'est vrai que on pourra continuer à poser des questions autour de ces élections à Monsieur le ministre. Il aura toujours les réponses qu'il donne naturellement parce que à cette étape, il n'y aura pas d'autres éléments pour à donner en fait. Je crois. Jacques a posé une question, je pense que sur laquelle il serait nécessaire peut-être de revenir, c'est de savoir qu'est-ce que le Parti Unir aura à faire de cette victoire qu'il n'a pas encore fait. Mais peut-être avant de laisser le ministre parler, c'est de dire que tu as relevé un peu certaines contradictions qu'on peut constater en tant qu'analyste. Que nous sommes observateurs de la scène politique togolaise et on va continuer chacun de nous à se questionner. Comment on explique l'issue de l'élection, comment comprendre, comme il a dit, le message donné derrière, parce que tu as posé une dernière question tout à l'heure, c'est un peu à peu près paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a des partis qui avaient des partis à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'y sont plus, qui avait accompagné la dynamique du Parti Unir, notamment sur les derniers événements, et qui, on constate, ont été sanctionnés dans les urnes. Mais de l'autre côté, le chef de file a été plébiscité. C'est quand même un peu des choses sur les questions. On peut continuer à se poser mille et une questions sur beaucoup d'enseignements. De ces élections-là, je pense que le temps de l'émission ne nous suffira pas peut-être pour avoir les éléments de réponse. Peut-être faut prendre quelques mois, quelques années peut-être de recul pour comprendre finalement. Mais c'est la question fondamentale que nous allons nous poser aujourd'hui parce que Monsieur le ministre a cité un certain nombre de projets. On attend encore plus de résultats de ces projets, notamment quand il parle du projet Tinga, par exemple. Moi, je connais plein de Togolais aujourd'hui. Ils n'attendent pas forcément d'être branchés à côté de chez eux, mais ils attendent que les poteaux viennent chez eux. Et les poteaux ne viennent jamais, depuis des années. Ils attendent, par exemple, qu'on puisse les brancher à la desserte d'eau potable et que la TDE ne vienne jamais. La TDE ne sait même pas que ces Togolais existent. Ça, ce n'est pas très loin de Lomé, autour de Lomé, ici, dans certains quartiers que vous connaissez mieux. Les gens attendent véritablement que l'État vienne, que l'État les prenne en compte et l'État n'est pas là. Donc, je remets la question de Jacques sur le tapis. Qu'est-ce que le Parti Unir compte faire de cette victoire assez large et assez éclatante qu'il n'a jamais eu à faire? Parce que cette fois, devant les analystes, quand les résultats ne seront pas au rendez-vous, il n'y aura plus d'excuses. Parce que 108 députés sur 113, on ne pourra plus dire qu'on nous a empêchés, que l'opposition ne nous a pas laissés, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Cette fois, véritablement, politiquement, il n'y aura plus d'autres excuses devant les électeurs demain. Qu'est-ce que nous pouvons attendre en tant que Togolais aujourd'hui de cette victoire-là et qui donne toute la latitude au Parti Unir de pouvoir faire tout ce qu'il veut sur les 6 années à venir?
D'abord, deux choses. La première des choses, s'il y a bien un parti qui ne cherche pas d'excuses, c'est bien le Parti Uni. On n'a pas, on a rarement dit parce qu'on nous a empêchés, etc. Nous assumons le bilan que nous avons. Nous assumons ce qui a été fait. Nous reconnaissons les défis, etc. Puisque on sait que le contexte qui a été celui de cette législature est, une, est un contexte à nul autre, pareil. On n'a jamais vécu ça. On est sorti de la Covid, on est tombé dans la crise ukrainienne, on est tombé dans la, l'accélération de la menace terroriste. Donc, nous assumons totalement le bilan et nous en sommes fiers par ce, pour les réalisations qui ont été faites en premier lieu. Et je voudrais dire que les actions qui seront entreprises, j'ai eu l'opportunité, je pense, d'en parler à d'autres occasions. D'abord, il faut continuer cette action de préservation et de renforcement de la paix et de la sécurité. Le premier volet, qui n'est pas un volet neutre, en quelque sorte. Il y a eu une première loi de programmation militaire, mais si on se souvient, cette loi avait une durée de vie de 5 ans. Donc en 2025, elle va arriver à son terme. Il faut se repositionner, se reprojeter, en tenant compte de l'évolution de la menace sécuritaire, pour pouvoir justement continuer à donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité de faire leur travail. Mais aussi, en construisant à côté tous les mécanismes qui renforcent la sécurité. Le CIPLEV, par exemple, le PURS également. Ensuite, toujours poursuivre les actions en matière d'inclusion sociale. En matière d'inclusion sociale, j'ai parlé tout à l'heure de l'identification biométrique pour mieux identifier les vulnérabilités des populations, pour pouvoir justement leur donner éventuellement un appui quand cela est nécessaire et non plus être dans un schéma où on est dans, dans un mécanisme de subvention tout azimut. Quand aujourd'hui, vous et moi, nous mettons du carburant, nous avons un bénéfice de cette subvention-là, mais peut-être que quelqu'un à côté a besoin de plus que moi. Peut-être qu'il a besoin de plus que vous. Et donc, il faudrait pouvoir l'identifier. Et ce projet, comme je l'ai dit, n'est plus un projet puisqu'il a déjà démarré, il a été testé, que ce soit sur un groupement agricole dans les savanes et au niveau de la, des étudiants. Donc, renforcer et amplifier la réponse aux besoins sociaux. Pour ce qui est de l'accès aux services comme l'eau et l'électricité, il faut reconnaître qu'il y a effectivement des délais d'attente qui sont des délais d'attente qui sont longs et qui sont liés essentiellement à ce qu'on qualifie de, si ce n'est une explosion démographique, mais en tout cas une évolution de la démographie et qui parfois est, s'accélère sans qu'on puisse en quelque sorte en voir le bout ou en voir l'impact. Et on le voit quand on parle de ceux qui s'installent dans des zones qui ne sont pas elles-mêmes viabilisées, qui ne sont pas elles-mêmes encore prises en compte dans la cartographie urbaine et qui, effectivement, quand cela se passe, vont se retrouver dans une situation où il faut attendre un certain moment que l'urbanisation arrive et que les services publics basiques puissent arriver. Parce que, à un moment donné, il faut faire cela de manière organisée, de manière ordonnée, de manière claire. Et c'est ce que ces organismes-là, que ce soit la TDE ou que ce soit la, les, la, comment ça s'appelle, la CET, doivent faire. Je ne remets pas en cause le fait que ça, ça nécessite que ces personnes vont attendre un certain moment. Mais c'est quelque chose qui est mis dans, dans un plan et donc c'est une action qui est menée par ces services-là, que ce soit par, par la TDO, que ce soit par la CET. Et cela ne remet pas en cause hein, le fait qu'on dise que le fonds Tinga en quelque sorte ne va pas apporter quelque chose. Parce que parallèlement, il y a des gens qui attendent effectivement les poteaux, il y a des gens qui sont à des endroits où il y a les poteaux et qui manquent de moyens pour y accéder. Donc, il y a plusieurs besoins. Et la question de l'électricité, je crois que cela a été expliqué, il y a plusieurs besoins dans ce sujet-là. Il y a l'accès à l'électricité, il y a la production même de l'électricité, le fait même que nous devons assurer notre souveraineté en matière électrique. Nous le savons tous, cette souveraineté-là, c'est un élément majeur et c'est un élément qui nécessite la mobilisation de ressources. Et c'est ce que le gouvernement fait pour justement faire en sorte que nous puissions aller vers cette souveraineté. Et c'est aussi ce qui a conduit à la mise en place du projet CISO dans certaines localités, parce qu'il s'est avéré plus compliqué de les connecter au réseau classique que de les doter du réseau solaire, mobile et personnalisé. Ensuite, poursuivre la création de richesses, la création de richesses qui a été engagée avec l'exemple emblématique de la plateforme industrielle d'Adeticopé, qui est basée sur l'idée que nous pouvons transformer sur place ce que nous produisons. Alors, cela prend du temps parce qu'il faut identifier les ressources que nous avons. Il faut vraiment les mettre dans un process qui soit très clair pour qu'on arrive à les transformer et arriver, par exemple, à exporter énormément de soja transformé au lieu du soja brut, puisque nous étions parmi les premiers exportateurs de soja brut. Mais il faut maintenant équilibrer cette balance-là. Et ensuite, la partie, le coton, le bois et un certain nombre de matières premières. Donc, je cite juste ces trois axes-là, c'est-à-dire la sécurité, l'inclusion et ensuite la création de richesses, sans oublier les infrastructures qui, elles, sont en place et qui sont à optimiser, comme le port autonome ou l'aéroport international Niassimbe et Adema. Mmh.
Jacques ?
Non, je crois que, monsieur le ministre, je vous crois musulman. Le constat depuis la publication de ces résultats, il est vrai, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ceux qui avancent ces hypothèses, comme si une Irak bassait les militants du parti de l'opposition pour ne pas sortir pour aller voter. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Parce que cela, on ne peut pas comprendre que l'ensemble de la classe politique de l'opposition puisse ne serait que égrener seulement 5 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que la force mystique aussi a passé ces élections-là,
monsieur Natiaba?
Wow. Je crois que monsieur Diakouti est le... Enfin, le pasteur Diakouti, je pense que... Enfin, c'est un parent.
Ah, oui, hein.
Donc, il est là en tant qu'analyste.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Non,
moi, je crois que rapporte.
Ah bon, oui. J'avoue que c'est une question à laquelle je n'ai même pas... penser et à laquelle je n'ai même pas pensé. Je pense qu'il y a des raisons rationnelles. Je pense qu'il y a des raisons fort rationnelles. Et si nous ne faisons pas attention, comme un élève qui va à un examen, l'objectif de cet élève, c'est demain de retourner à cet examen. Et s'il a eu 18, il doit se dire que demain, il peut avoir 19, il peut avoir 20. S'il n'a pas eu la moyenne, il doit se dire que demain, il peut l'avoir. Puisque, en réalité, les uns et les autres ont les mêmes capacités, ont été mis dans les mêmes conditions pour y arriver. Et donc, je pense que ce travail-là, il faut que les analystes puissent le faire. Il faut une analyse peut-être fine, peut-être, comme cela a été dit, avec du temps, sur du temps un peu long, sur cet effritement peut-être qu'on a constaté, statistiquement, hein, cet effritement. En technique de sondage, on parle des courbes qui se croisent, parce que pendant que l'effritement se constatait en face, on constatait effectivement une montée qui n'a cessé de se confirmer. Les scores que fait le Parti Unir dans ces localités-là, où aujourd'hui il a fait les taux qu'il a fait, le Vaud, le Yoto, etc., c'était des taux qu'on pouvait pressentir. Puisque on voyait déjà, on remarque en tout cas une progression constante d'un point de vue statistique. Il faut prendre les courbes, tout simplement, et on verra que ces courbes-là ont une tendance haussière depuis un certain temps. Et donc, c'est logiquement que quand peut-être il y a un peu de dispersion en face, parce que peut-être aussi que quand on a tous ces partis qui ne peuvent pas s'entendre pour proposer une offre commune, à ce moment-là, cette dispersion-là, parce que parfois, quand, là aussi c'est les données, quand on prend certaines données, quand on additionne les voix du camp d'en face ou des certains partis majeurs du camp d'en face, on constate qu'ils challengent parfaitement le Parti Unir. Mais cela n'a pas été le cas, cela a été compté individuellement. C'est la réalité du terrain et c'est la réalité du constat. C'est une des explications, à mon avis. Et cette analyse fine, je pense qu'il faut la faire. Cette analyse de la progression du travail de terrain qui fait que progressivement le vote change et qui fait aussi qu'il faut se rendre compte que peut-être que nos compatriotes sont un peu moins sur le type de discours qui est proposé, parce que quand le sujet c'est uniquement nous sommes l'alternative, ce sujet n'est pas nous avons un projet. Donc, l'idée, c'est plus d'aller vers les populations avec un projet, à mon avis. Mais ça, c'est vraiment ma perception, parce que cette analyse-là, je laisse ça aux spécialistes et notamment à d'autres acteurs politiques qui sont certainement beaucoup plus aguerris que moi pour ce qui concerne leur parti politique.
Mmh. Oui, Zizi.
Oui, sur le sujet, peut-être, je pense qu'il faut revenir, parce que là, nous sommes, selon le dernier recensement général, nous sommes autour de 8 300 000 Togolais, et que le recensement électoral a pu comptabiliser quelques 4 200 000 Togolais. Mmh. Alors, sur les 4 200 000 d'électeurs attendus, aux urnes, on a eu autour de 2 millions et quelques, hein, 2 millions et quelques pour faire les 50 et quelques pourcents.
60. On parle de
61% de la CENI. Donc, autour de 2 500 000 personnes qui ont voté. Donc, c'est sur les 2 500 000 de votants que UNIR, naturellement, se taille la part du lion. Et là, on constate justement que, un peu comme monsieur le ministre l'expliquait, les militants du parti UNIR sont allés voter clairement, alors que en face, il explique peut-être l'effritement. Ailleurs, on voit justement que ce n'est pas parce que à tous les coups, UNIR a gagné complètement. Quand on ajoute les voix des uns et des autres de l'autre côté, on pourrait voir une égalité ou même un dépassement des endroits. Et
léger.
Oui, léger. Oui. Je n'ai pas
précisé au niche.
Grand dépassement. Justement. À plusieurs niveaux, on pourrait voir, on pourrait faire cet exercice et voir que si c'était peut-être une élection présidentielle ou quelque chose, on verrait peut-être des voix à quelques proportions gardées, des voix à certains niveaux s'égaler ou dépasser légèrement et tout. Mais là, malheureusement, pour les partis de l'opposition, nous sommes dans une élection présidentielle ou régionale.
Législative,
autant pour moi.
Oui.
Législative et régionale. Et il faut justement que des gens puissent avoir la chance de comptabiliser des voix et beaucoup plus maximiser pour avoir les sièges, ce qui n'a pas été fait. Et à chaque fois, puisque le parti en face est un bloc, le parti au pouvoir est un bloc qui a su mobiliser ses militants, à chaque fois a su maximiser ses voix pour avoir plus de sièges. Et donc, est-ce que c'est une leçon aux oppositions togolaises, parce qu'elles sont plurielles finalement, de pouvoir s'unir dans de telles élections? On ne sait pas, à chacun de faire les analyses, mais je pense fondamentalement que on a à gagner au Togo sur peut-être beaucoup plus de la légitimité à travailler. Ça, c'est peut-être le travail de chacun de nous, à travailler pour que lors des prochaines consultations électorales, on ne puisse pas avoir, comme Jacques le disait, ce constat-là de beaucoup plus d'abstentionnistes qui continue d'évoluer. On a constaté dans la partie septentrionale du pays, on a des taux de participation jusqu'à 95% et tout ça, alors qu'ici on était autour de 30% par endroit et tout ça. Ça va, ma foi, ça créera un déséquilibre en termes de légitimité. Si nous connaissons encore nos réalités africaines, et on ne va pas le cacher, nous votons encore par affinité de d'où on vient, et ça se ressent encore dans nos processus électoraux. Je pense que les acteurs politiques togolais doivent maintenant arriver à travailler pour beaucoup plus de légitimité. Dans les prochaines consultations électorales, on puisse motiver plus les Togolais à aller voter. Par exemple, sur ce processus, on peut avoir beaucoup de choses à dire. Ira-t-on, n'ira-t-on pas aux élections? Les dates qui sont fixées, qui sont déprogrammées, qui sont refixées, finalement, bon, ça pourrait peut-être avoir à démotiver un certain nombre de personnes. Je pense que c'est des leçons, c'est des notes que nous devons prendre pour parfaire nos processus. Rien, on ne dit pas que c'est parfait. Mais je pense que pour une question de légitimité, pour qu'on ne sente pas par endroit un rejet, parce que la plupart des gens ne sont pas allés voter par endroit, il faut que tous les acteurs politiques travaillent à ce que les électeurs se mobilisent dans les consultations électorales. Ce sera tout à l'avantage du parti UNIR ou d'autres partis qui gagneront demain et qui n'auront pas ce sentiment-là de rejet, qui ne s'exprime pas en termes de gens qui prennent la parole, mais généralement pas des gens qui ne vont pas aux urnes.
Monsieur Ndjaba,
Non, je trouve que c'est un peu facile de parler de légitimité. J'utiliserai un autre mot. Je pense que sincèrement ça serait compliqué de remettre en cause la légitimité de ce vote. Et le deuxième point, parlant de la dimension éventuellement régionale, dans ce cas-là, le Parti Unir serait le parti national, parce que c'est-à-dire le parti qui couvre l'ensemble du territoire et qui a des représentants partout sur le territoire national, qui a réalisé ses scores. C'est bon score partout sur le territoire national. Et c'est ce qui est important. Je veux dire qu'il n'y a pas une frange de la population qui a adhéré dans une région donnée, etc., qui a adhéré à la vision du chef de l'État, et une autre frange de la population qui ne l'a pas fait. Parce que si on prend la zone où on parle de cette abstention qui est peut-être plus importante qu'ailleurs, dans cette zone, les ressortissants de toutes les localités se retrouvent. Donc ça serait difficile d'avoir une lecture entre guillemets régionale de cette abstention-là. Donc ce que je veux dire par rapport à là, je suis d'accord, il faut travailler pour améliorer cela. Mais quand même, ne nous autoflagellons pas. Nous avons un des taux de participation, si les chiffres se confirment, les plus élevés de la sous-région. Aujourd'hui, en faisant le constat, élection présidentielle y compris. Donc il faut qu'on soit quand même... Effectivement, on peut toujours chercher à mieux faire. C'est important parce que il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Nous sommes en apprentissage. Modestement, nous sommes en apprentissage. Mais néanmoins, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été réalisées, notamment grâce à la maturité politique de nos compatriotes.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nataba, d'être passé justement dans cette émission, de répondre alors à nos questions. Maintenant, il y a les compatriotes également qui sont à l'écoute. Hein, nos auditeurs qui sont à l'écoute vont vous poser des questions. Mais bien avant, nous observons une pause.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Voilà, monsieur le ministre, je vais vous prier alors de porter le casque et rapidement, nous allons donner la parole aux auditeurs 22 21 33 114 91 36 63 115. Notre premier auditeur est en ligne. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, commis.
Commis, voilà.
Oui.
Allez-y.
Bonjour à l'invité.
Monsieur commis.
Oui, bonjour. Nous avions constaté après les élections de 2020, le terrain a été vraiment interdit, soit à l'opposition, aux partis de la société civile, même aux syndicats. On a même interdit les regroupements dans les établissements. Est-ce que cette fois-ci, au sortir de ces élections, ces velléités d'interdiction vont cesser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est le message de ces 49% qui n'ont pas été aux élections, c'est-à-dire qui se sont abstenus? Quel message vous déduisez de cette abstention-là?
D'accord.
Maintenant, par rapport à la victoire, moi je tiens à vous féliciter. La félicitation tient compte de quoi? Que vous avez pu mobiliser vos militants à aller aux urnes. Maintenant, l'honnêteté qui me permet de reconnaître votre victoire, l'honnêteté là aussi m'oblige à vous dire que nous sommes passés des députés nommés aux députés bourrés. Je m'explique. Vous l'avez reconnu tout à l'heure que les allégations constatées doivent être versées à l'institution crédible de traiter ça. Ça sous-entend que c'est sciemment organisé, cette pareille velléité. Une fois c'est détecté, on peut retirer. Une fois ce n'est pas détecté, on en passe. Et je donne seulement deux exemples.
Rapidement,
le premier exemple, c'est la procuration. On a vu des vagues de 10 personnes, 20 personnes qui ont utilisé avec habileté cette façon de procuration. Et la seconde exemple, ça tient compte de la question de bourrage. C'est-à-dire, moi j'avais été, comment dirais-je, dans le bureau de vote en 2015, en 2024, je constate que, en l'absence des représentants des candidats de l'opposition, les gens se permettent de n'importe quoi pour bourrer les urnes. Est-ce qu'un grand parti de ce renom-là ne peut pas se passer de ces habitudes-là?
D'accord. Merci beaucoup, Komi. 22-21-33-114-91-36-33-115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Nyamavo.
Nyamavo, oui.
Allez-y.
Oui, salut, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur Nyamavo.
Oui. Je voulais rappeler à l'opposition que on a souvent souligné ça. Une mauvaise coalition vaut mieux qu'une bonne séparation. Et encore voir dans l'UNI, il y a beaucoup de choses là-bas. Imaginez Bumba Pascal Boudjouna qui a été vomi, qui a été ravalé par la même bouche. Mais il n'a qu'à suivre des exemples. Quand il s'agit d'enjeux, ils n'ont qu'à enterrer leurs égaux. Que quelqu'un dise qu'on aille au grand marché pour demander des pardons, ils n'ont qu'à enterrer ça. Donc je félicite, comme quelqu'un le dit, l'UNI pour sa stratégie. Et ce n'est pas une stratégie parce que elle fait comment de bonnes choses. Les gens ont voté unir en graissant les dents. Tout simplement, ils veulent protéger leur existence vis-à-vis de l'exode que nous avons constaté. Pour certains, bon, heureusement que le grand parti a d'être enterré. Et entre-temps, en disant Abloré Badiala, pour mes frères, ils pensent qu'on dit Abloré Pacha. Donc c'est ça qui fait craindre. Les gens veulent se protéger. Et ils pensent qu'ils font de bonnes choses, c'est pourquoi on le vote. Non. Qu'on cesse les menaces, qu'on accepte le citoyen togolais partout il est, et vous saurez que aux prochaines élections, le parti lui-même va se demander comment ça s'est passé.
D'accord.
Comme l'opposition se demande aujourd'hui.
Merci beaucoup, Nyamavo. 22-21-33-114-91-36-63-75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Allô?
Oui, allô, comment vous allez?
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur.
Moi, c'est Natema.
Monsieur Natema.
Natema.
Je veux poser cette question.
Oui, allez-y.
Bon, ou bien je vais dire ceci. Unir ne pourra jamais, jamais, ou bien le chef de l'État ne peut jamais construire le Togo jusqu'à finir tout avant de mourir. Vous savez, c'est l'alternance qui peut amener ça. Quand vous allez au Ghana, au Bénin, ou partout d'ailleurs. Parce que c'est ça ce qui est capital. C'est l'alternance. Le fait qu'il y a des bas à travailler, c'est bon. On a vu. Là où il a décidé de payer, on a vu ce qu'il faudra faire. Si il faisait 10 ans et il partait, et que c'est quelqu'un d'autre qui venait, vous ne voyez pas qu'on serait très loin. Deuxième chose, il parle de raccordement, les gens payent 1000 francs. Il parle, le compteur se trouve où? Collé à un poteau ou bien dans une niche. Et vous voyez de l'Oumé à Saint-Cassé, c'est les araignées. Didier a bien soulevé ça. Il n'y a même pas d'eau. Il parle, c'est vrai, on fait les forages quelque part des points. Mais on souffre trop. On souffre trop. Merci et bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, Natéman. 22-21-33-114-91-36-33-115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur Sibiti.
Je veux dire Papa Sibiti.
Bonjour, Papa Sibiti.
Parce que monsieur Nataba Pambaré, que j'aime, est mon grand frère. Bon, monsieur le ministre.
Oui.
Allô, monsieur le ministre.
Oui, oui, allez-y, on vous écoute.
Aujourd'hui, nous remercions les radios Victoire FM, l'FM et Canal FM. C'est les ministres du parti qu'elles ont reçu. Monsieur le ministre, vous avez vu le score là? C'est comme Napoléon Bonaparte Waterloo qui a perdu. L'opposition a beaucoup perdu. Maintenant que UNIR, même UNIR, je pense qu'il doit s'étonner de ce score. Le président de la République, c'est maintenant qu'il a du travail. Hier, je l'ai dit, quand on m'a invité à la radio, en FM, les 19 ans qu'il a passé là, mais c'est maintenant parce que vous êtes seuls. Il faut s'occuper des jeunes, des fonctionnaires, des journalistes là-bas. Ceux qui ont perdu là, ils se sont, les radios ont fait qu'ils ont perdu. Parce que certains, quand ils viennent à la radio, ils ne parlent pas humblement comme vous. Nous aurons ça, vous voyez. donc le président de la République, n'a qu'à nous écouter. Il n'a qu'à écouter son peuple pour faire ce qu'il doit faire comme on a son père. Aujourd'hui, on le regrette. Dites-lui ça. On n'a pas besoin de... Le président n'a pas besoin de conseils. Il sait ce qu'il doit faire pour qu'on l'applaudisse.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti.
22 21 33 114 91 36 315.
Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre
bonjour,
nom.
Monsieur le ministre, c'est Abdel.
Abdel.
Bonjour, monsieur Abdel.
Je voudrais remercier le ministre pour la qualité du débat et des arguments avancés.
Merci.
Et renchérir en disant que lorsque vous êtes une équipe de football et que vous ne respectez pas votre calendrier d'entraînement, c'est normal que lorsque vous allez dans un match, dans une compétition, hein, c'est normal que vous perdez le match. Et c'est ce que nous avons observé sur le terrain politique togolais. L'absence de l'opposition dite traditionnelle, à tous les niveaux, dans tous les compartiments. Et c'est normal que ça reflète le résultat actuel. C'est normal, ça pour tout citoyen averti et qui suit l'actualité politique devrait tout simplement comprendre que ces résultats ont été seulement le fruit du travail du parti Union pour la République unie sur le terrain qui a été présent partout et en tout lieu. Et c'est ça, c'est le résultat. Merci. D'accord. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup. Merci. Abdel, pour votre intervention, hein, 22 21 33 114.
Allô. Allô.
Oui, bonjour.
Bonsoir, c'est Monsieur Comlan du lycée.
Monsieur Comlan du lycée. Monsieur Comlan, allez-y.
Bon, moi je voudrais retourner un peu en arrière. Je voudrais demander au ministre, je ne connais pas son âge, que les élections de 1998 là, et lorsque Madame Anna était était présidente pour donner les résultats des élections là.
Mmh. Oui.
On sait ce qui s'est passé, on sait que après elle a fui le pays. Est-ce que monsieur le ministre peut nous dire qui a réellement gagné cette élection présidentielle?
Là, nous sommes en train de parler plutôt alors de l'élection de 2024.
Puis, monsieur Comlan, monsieur Comlan. Position aussi, je voudrais lui demander au ministre quel est véritablement leur programme politique.
D'accord.
Parce qu'on sait que dans la région, le Togo est dernier. Quand vous allez au Ghana voir les infrastructures routières, et puis au Bénin, on voit que nous sommes à la traîne.
Ok, monsieur Comlan, c'est bon, merci, monsieur Comlan. On va donner l'opportunité à d'autres auditeurs aussi, en 22 21 33 114. Allô.
Hein?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom c'est
Jacques Anaté.
Jacques Anaté.
Oui.
Jacques, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle Agoué.
Agoué, allez-y.
Voilà. Donc, je tenais déjà à saluer Monsieur le ministre.
Bonjour, Monsieur Anaté.
Les féliciter pour la teneur de ses propos et les éclaircissements qu'il a apportés. Je tiens également à féliciter le gouvernement ainsi que la CENI pour l'organisation réussie de ce processus électoral. Et quant à l'opposition, je les invite à éviter la politique de l'autruche et à faire une analyse rigoureuse de cette débâcle électorale, parce qu'on peut la qualifier ainsi. Et également à penser déjà à un renouvellement de la classe politique de l'opposition. Parce que ceux que nous avons aujourd'hui comme leaders, je pense qu'ils ont fait, leur preuve. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. En gros, ils n'étaient pas capables de grand-chose. Et je pense qu'il faut laisser aujourd'hui la place aux jeunes. Et dans cette grande partie, il y a la jeunesse qui est active. Donc, il faudrait laisser la place aux jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent également faire leur preuve.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Jacques. Et bonne journée. 22 21 33 114, nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Parfait.
Oui, votre nom? La radio qui est auprès de vous fait du bruit. Vous allez devoir diminuer un peu son volume. Allô?
Ça va?
Oui, ça va mieux. Votre nom, c'est?
C'est Monsieur Edgar.
Monsieur Edgar.
Oui.
Edgar, voilà. Edgar. Vous nous appelez de quel quartier?
Depuis Agbalepedo.
Agbalepedo, ok. Allez-y.
Bon, j'interviens essentiellement pour vous faire comprendre que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Le ministre qui est à côté de vous, Nadal, ceux qui sont au pouvoir, ils tiennent des propos de battre en guerre. Ça énerve le peuple togolais. Comment un ministre peut dire tu es là pour boire du lait ou bien tu es là pour compter tes bœufs?
C'est quel ministre qui l'a dit, monsieur Edgar?
Pardon?
C'est quel ministre qui l'a dit?
Je ne me rappelle plus.
Ah, mais vous ne vous rappelez plus. Là, vous donnez quand même des. Vous dites quelque chose quand même qui ne tient pas, vous, sincèrement.
Il y a un autre.
Non, nous n'allons pas vous laisser quand même continuer, monsieur Edgar.
Non,
nous n'allons pas vous laisser continuer. Puisque si vous voulez affirmer quelque chose, il faut l'affirmer avec des preuves. C'est très important. Et dites-nous celui qui l'a dit aussi. Merci beaucoup. Je pense que monsieur Edgar, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. Monsieur le ministre, Malick Nataba, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur notre débat ici. Il y a certains qui vous ont fait des observations, d'autres également ont posé des questions. Si d'une manière laconique, vous pouvez ramasser cela pour répondre, ce serait très intéressant.
Bien sûr, merci beaucoup. Je remercie l'ensemble des auditeurs pour les questions et surtout les conseils et les exhortations. Notamment quand M. Papa Sibiti évoquait ou quand Papa Sibiti tout court évoquait le fait que
s'il exige que vous l'appelez bien sûr
il y a du travail et que de manière collective nous devons continuer et approfondir ce travail. Si je m'arrêtais sur cette parole ça je dirais effectivement il y a beaucoup de travail. Le temps n'est pas aux tergiversations et l'enjeu c'est que collectivement, aujourd'hui les élections sont en train d'être derrière nous, aujourd'hui c'est comment on se retrouve pour travailler, pour construire notre pays. Quel que soit le vote, quel que soit ce qu'on a exprimé dans les urnes, quelle que soit la position qu'on a eue, et parfois on n'est pas allé voter, je profite pour parler de ceux qui ne sont pas allés voter, mais aujourd'hui cela doit être mis derrière nous. Et comme cela avait été dit à un moment donné, nous ne pouvons pas, et là je réponds à celui qui a parlé de 98, nous ne pouvons pas être prisonniers de notre passé. Nous sommes aujourd'hui tourner vers l'avenir. Et cet avenir, c'est un avenir collectif. Un avenir qui se fera ensemble pour pouvoir avancer. C'est ce que je peux dire en gros, en disant que aujourd'hui, l'enjeu, c'est ce que nous allons faire ensemble pour pouvoir avancer. Et donc, quel est le programme du Parti Unir? Paix et sécurité, inclusion sociale et développement économique.
Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Jacques?
Non, je crois que merci d'abord au ministre Nataba, comme les uns les autres l'ont dit, pour son calme à répondre aux questions, même si entre-temps j'avais parlé de basse. Ben, c'est ce que les gens racontent. Vous savez qu'en Afrique, généralement, quand on parle des élections, cela. Les gens parlent toujours de ça.
Et il semble que nous sommes en politique et tout est possible.
Voilà. Bon. Ça,
moi, je n'ai pas oublié qu'il a dit quand même que les pentades se sont envolées à Mango. J'ai senti que c'était contre moi, mais je n'ai pas compris pourquoi c'est à Mango que ça doit s'envoler.
Non. Okay, Jacques, vraiment, merci à Pascal.
Oh, là, c'est pire.
Merci, Pascal, oui, pour l'émission. Comme je l'ai dit, sur l'entrée du nord du pays, sincèrement, comme le ministre l'a dit, il faudrait que UNIR se mette au travail. Il faut vraiment vous mettre au travail pour soulager effectivement la population. quand vous prenez la nationale numéro 1, il faut vraiment que certaines villes, vous puissiez les contourner. Et Thiévier, par exemple, même Kara, il faut vraiment... D'après ils ont réussi parce que finalement, les Titans ne passent plus au milieu de la ville. Je crois que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Unir a gagné, que Unir mette effectivement compte cette victoire pour soulager effectivement les populations.
D'accord. Dizier.
Oui, ça a été un plaisir d'échanger avec monsieur le ministre. On sent beaucoup d'humilité dans ses propos. Ce n'est généralement pas le cas, souvent dans des cas d'espèce où il y a plutôt des propos dithyrambiques par endroit. Ça veut dire qu'ils ont, en tout cas pour certains, pour lui par exemple que j'ai écouté, pour d'autres, pris conscience du message que les Togolais ont donné. Comme nous le disons ici aujourd'hui, on s'attend à un bilan plus, si vous voulez, en termes de pourcentage, plus poussé que ce qu'il n'y a déjà eu sur le terrain, parce que là, nous nous attendons, nos attentes seront là, et comme d'habitude, nous allons attendre toujours l'eau, l'électricité, les jeunes vont attendre de l'emploi, et après 6 ans, on va toujours amener ces mêmes questions-là, et je crois qu'il faut qu'ils puissent continuer à garder cette humilité-là, pour continuer véritablement à travailler, pour que ce qu'ils n'ont pas pu faire jusque-là, parce que quand on dit unir, ils sont là depuis longtemps quand même, ce qu'ils n'ont pas pu faire jusque-là, qu'ils puissent le faire pour que à la prochaine occasion, nous puissions dire ils ont vraiment promis et ils ont tenu promesse.
D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Non, je voudrais remercier Canal FM, remercier les deux confrères pour les échanges de qualité que nous avons eus. Même si je n'ai pas la qualité d'être un analyste, mais je représente un parti politique qui fait le travail, qui est impliqué, qui est mobilisé sous la conduite du chef de l'État pour pouvoir répondre aux besoins des populations. C'est la préoccupation majeure du Parti Unir et nous continuerons dans ce sens conformément à la confiance que les populations nous ont renouvelée. Je profite pour les remercier pour cette confiance-là et leur donner rendez-vous sur le terrain, comme d'habitude.
Monsieur merci. Malik Kakanataba, merci d'être passé dans cette émission. Merci d'avoir répondu aussi à nos questions. Je rappelle que vous êtes le délégué du mouvement des Jeunes Unis. Et donc, merci d'être passé dans cette émission. Jacques, merci à vous d'être passé dans cette émission.
Merci.
Merci Didier d'être passé aussi dans cette émission. Michel Tomega a assuré la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.